Direct en jeu. Je me demande si cette journée est la journée du bonheur. Entre ce que j'ai fait avec Bruno et Christine ce matin pour cette journée spéciale du Festival d'Avignon le 12 juillet, qui va fêter André Benedetto, l'un des fondateurs du festival. Et maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler, une saltimbanque qui se trouve dans sa voiture. Enfin, je ne sais pas si elle dort dans la voiture, si elle fait quoi. C'est une nomade. C'est une personne qui... Voilà. Mais vous ne pouvez pas savoir, et vous savez que là, il y a des gens qui me disent « Alain, qu'est-ce qui t'arrive ?» Le bonheur de retrouver Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bonjour Alain, bonheur partagé.
Ah ben, dis-moi si je dis pas de bêtises, tu es face à la mer là en ce moment.
Face au lac en tout cas.
Pourquoi, c'est quoi la différence entre la mer et un lac?
Ah, c'est notre petite mer intérieure, mais voilà, face au lac Léman.
D'accord, alors là, ce rendez-vous est super parce que je te signale qu'on a tellement parlé la dernière fois qu'on n'a pas eu le temps de parler d'un sujet principal qui était un peu embêtant. Et là, si j'ai bien compris, on va parler de l'eau.
Voilà, on va parler
de l'eau.
De l'eau.
De la capitale mondiale de l'eau. Comment est-ce qu'on peut présenter ça?
Oui, capitale mondiale de l'eau, ville balnéaire, ville belle époque. Effectivement, avec l'eau qui a traversé les âges, je pense que tous les Français ont été nourris avec cette eau étant bébé. Donc là, ça doit déjà un petit peu plus donner d'indices pour l'eau d'Évian. Donc on va parler d'Évian les bains.
D'accord, ok. Mais juste un truc, il n'y a pas que les bébés qui boivent de l'eau d'Évian. Moi, j'en ai vu encore hier. D'accord.
Les bébés, les pépés, les mémés, tout le monde. Voilà.
Bébés, les pépés, les mémés, pas mal. Oh, je te sens en forme, toi. Dis-moi, quand c'est on ça. Dit Évian, pourquoi tout de suite on pense à l'eau? On ne pense pas au lac, on ne passe pas à la ville, on ne pense pas au palais lumière. Bon, je pourrais en faire plein. Pourquoi est-ce tout de suite on pense à l'eau?
Justement, je pense parce que cette eau a traversé les époques, en tout cas à une période où il n'y avait pas trop le choix de l'eau pour mettre dans les biberons pour les bébés. Donc ça a été elle la première, c'était la première eau des bébés pour les biberons. Mmh. Ça a été la grande révolution à l'époque où justement on n'avait plus à faire bouillir l'eau pour préparer les biberons. Donc c'est vrai que pour les mamans, ça a été la grande révolution à cette époque-là, hein, d'abord vendue en pharmacie, puis après dans les grands magasins. Mmh. Mais effectivement, ça a été la première réputation, même la première clientèle touristique qui venait à Évian. C'était pour prendre les eaux, comme on disait à l'époque. Donc, c'est vraiment son eau qui guérissait, donc aux vertus thérapeutiques, qui a fait venir cette première clientèle aristocratique, hein, parce que là, on est à la belle époque, on est dans les années 1900, donc... On n'était pas dans la clientèle thermale actuelle qui s'est très démocratisée. Donc là, on a toutes les classes sociales. Mmh. À l'époque, c'était effectivement les têtes couronnées, les chanteurs, les acteurs de l'époque qui venaient se prélasser, boire l'eau d'Évian, aller au terme pour les massages, les bains. La gymnastique un petit peu, hein, voilà ce qu'on appelait la mécanothérapie.
La
remise en forme, la mécanothérapie. C'était l'ancêtre des machines qu'on peut avoir aujourd'hui dans les salles de fitness, si tu veux. Mais voilà, c'était là. Exactement.
C'est pas le même.
Voilà, avec d'autres costumes, mais c'était un peu cette première ambiance-là, oui.
Tu m'excuses, mais la semaine dernière, j'ai fait un sujet assez original avec Emma sur la calinothérapie. Et moi, j'ai dit que j'allais proposer bientôt l'alinothérapie. C'est-à-dire que vous m'appelez, puis vous discutez avec moi pendant 10 minutes. Ça... Mais voilà. C'est assez original, ouais. Dis-moi, ouais. Évian. Bon, tout le monde sait où c'est Évian, mais c'est où Évian, en fait, exactement?
Alors, je ne sais pas si tout le monde sait où Évian, en fait. Donc, merci. On est au bord du lac Léman.
Il est où, le lac
Donc,
Léman?
Il est où le lac Léman? Il est entre deux pays. Donc, nous, on est côté français, même si on n'est pas français depuis très longtemps en Haute-Savoie, hein, seulement depuis 1860.
Oh non, ça va recommencer.
Ça va recommencer. Non, je ne te refais pas l'histoire, promis. Mais donc, on est tout au nord du département de la Haute-Savoie. Et puis, effectivement, juste en face de nous, de l'autre côté du lac, c'est la Suisse, en fait, puisque ce lac Léman, il a la particularité d'être sur deux pays. Donc, la France et la Suisse. Et puis, côté Suisse, il y a quatre cantons différents. Mais ça, il me semble que Émilie en avait déjà parlé un petit peu dans ton émission.
Alors, attention, je vais te poser une colle maintenant. T'es prête?
Attention, oui.
Ouais. Je suis sur le bord du lac. Je suis donc à Évian. Je regarde en face. Quelle est la grande ville qui est en face de moi?
Ah, facile. Lausanne.
Oh, elle est trop forte. Beaucoup trop forte et tout.
Ouais. Donc, ville olympique. La ville de Pierre de Coubertin, qui est enterrée d'ailleurs dans le cimetière de Lausanne. Donc c'est pour ça qu'il y a le musée olympique qui rend un petit peu hommage à tout ce qu'il a fait pour l'olympisme de manière générale. Donc oui, très jolie ville, pour à la fois pour ce côté Jeux olympiques, ville d'origine antique, puisqu'on a pas mal de vestiges de la première époque romaine, et puis une très jolie ville médiévale aussi, avec la cathédrale, qui est une des plus belles cathédrales de Suisse, cathédrale gothique suisse.
Ça suffit, on a dit qu'on parlait des viands cette fois-ci. Mais
c'est vrai, non, on va pas y arriver.
Mais si, non, mais alors, c'est pas grave, la prochaine fois on parlera de Lausanne.
Oh, voilà, exactement. Pourquoi pas, ça fera l'objet d'un autre sujet.
Dis, Evian, tu dis 1900, mais ça a commencé quand, Evian, en fait?
Alors, Evian, c'est... il n'y avait pas encore d'occupation à l'Antiquité, contrairement à Thonon-les-Bains qui est à côté, que tu connais. Par contre, l'histoire a vraiment commencé au Moyen-Âge. Alors, on pense par les archives qu'on a à partir du XIe siècle. Donc, c'est vraiment une bourgade, on dirait, hein, pour l'époque. Qui s'est développé petit à petit au fil des siècles. On est toujours sur le secteur privilégié de la famille de Savoie, la fameuse dynastie des comtes, puis ducs, puis princes de Savoie. Donc à Évian, il y avait le comte Pierre II de Savoie hein, au XIIIe siècle, qui a fait beaucoup pour développer justement cette bourgade, puisqu'il y avait son château, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, qui a été complètement... incendié, pillé, bien après son départ, donc pendant les guerres de religion, hein, notamment au XVIe siècle. Et en fait, Pierre II de Savoie, on pourrait dire, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, que c'était un petit peu le mécène de l'époque, puisque c'est lui qui a fait construire l'église, qui est par contre, elle, toujours présente. Jolie église du XIIIe siècle, Notre-Dame de l'Assomption, à l'intérieur de laquelle on a des fresques de la même période, donc du XIIIe siècle. Donc, il y a vraiment une décoration médiévale qui est très intéressante, avec aussi des stalles sculptées du XVe siècle, donc en bois de noyer. Et, chose précieuse et rare pour nos visiteurs à l'écoute, nos futurs visiteurs, on va dire, qui sont à l'écoute de ton émission, on peut aller voir vraiment au plus près ces fresques et ces stalles sculptées, puisque le cœur de l'église de... d'Évian est accessible, donc pour une fois, on ne bloque pas cet espace sacré, mais on le laisse aussi accessible aux visiteurs pour qu'ils puissent apprécier vraiment au plus près ces décorations médiévales.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est pour la petite partie médiévale. Alors, il y a quand même tout un petit parcours à faire de gaffe en gaffe, puisque à Lyon on traboule, n'est-ce pas, et chez nous on gaffe.
Voilà, enfin, on a pour information, ton parcours, d'après ce que je vois, il y a 24 étapes. Hein. Moi j'appelle ça un marathon plutôt. Hein.
Ah, il y a beaucoup de choses à voir à Évian, mais c'est vrai que le parcours médiéval, il est plus rapidement parcouru justement parce qu'il ne reste pas grand-chose finalement de cette période médiévale. Donc il nous reste l'église, il nous reste donc ces fameuses gaffes, ces fameux passages du Moyen-Âge, donc comme vous en avez de très beaux à Lyon avec les traboules. Donc c'est le même principe. Il nous reste aussi l'ancien hospice médiéval qui a été restauré par le fameux Viollet-le-Duc dont on a beaucoup parlé, avec Notre-Dame de Paris notamment, sa restauration. Voilà, après il faut vraiment faire c'est là où c'est intéressant bien sûr de faire le parcours avec nous, guide, parce qu'il faut faire plus un travail d'imagination pour recréer un petit peu l'ambiance médiévale, imaginer où étaient les remparts, puisque effectivement après entre le Moyen-Âge et puis la Belle Époque, bah, c'était un petit peu la Belle Endormie comme on appelait Évian, puisqu'elle s'est développée, oui, avec les commerçants, notamment les commerçants italiens qui faisaient halte au bord du lac pour vendre leurs marchandises, avant de s'arrêter à Genève pour les fameuses foires de Genève, puis Lyon pour les fameuses foires lyonnaises également. Donc c'est tout ce développement commerçant, on va dire, qui a aidé à enrichir la ville, à développer la ville. Mais c'est vrai que c'était un développement beaucoup plus doux entre le Moyen-Âge et puis le 19e siècle. Et puis le 19e siècle, c'était le grand développement du tourisme au bord du Léman de manière générale. Donc, Évian s'est intéressé à ce qui se faisait autour aussi. Genève était en plein développement touristique, Montreux, Vevey, Lausanne aussi, juste en face. Donc, finalement, elle s'est inspirée un petit peu de ses belles voisines suissesses. Et puis, elle a fait tranquillement sa métamorphose de belle endormie en ville thermale. Donc ça, c'était 1865. Et ville touristique, finalement, parce que ça a été le déclencheur, ça a été l'eau d'Évian, justement. On s'est rendu compte que, oui, elle était bonne à boire, ça, on le savait depuis des siècles et des siècles. Mais qu'elle était bonne à guérir certaines maladies, ça, on l'a découvert. On l'a découvert l'année de la Révolution française. Donc, 1789, un Auvergnat, monsieur de Lézère, qui était venu séjourner chez nous, dans la propriété de monsieur Cachat. Et en fait, ce monsieur, il souffrait de la gravelle. Donc, ça touchait les reins, ça touchait la vessie aussi. Donc, ces douleurs, elles ont été atténuées en buvant chaque jour de l'eau dans le jardin, justement, de monsieur Cachat, à la fontaine de monsieur Cachat, fontaine Sainte-Catherine. Et en fait, en faisant analyser cette eau, son médecin s'est rendu compte que la fin de ses douleurs s'expliquait par la consommation régulière de cette eau, donc à cette fontaine, parce que c'était une eau qui était parfaite justement pour éliminer les calculs rénaux, pour aider, on va dire, à l'élimination de toutes les toxines qu'on peut avoir dans le corps. Et c'est donc suite à ce premier cas médical, on pourrait dire finalement l'année révolutionnaire, que tout le processus via l'Académie de médecine, bien sûr, pour obtenir cette fameuse patente, donc cette fameuse autorisation pour devenir ville thermale et surtout pour pouvoir utiliser cette eau d'Évian à des fins thérapeutiques. Donc ça a mis pas mal de temps, un petit siècle finalement, pour se mettre en place, puisqu'à l'époque on n'était pas encore français, c'est pour ça que j'ai fait le petit clin d'œil tout à l'heure.
Tout à fait. Oui,
1789, on était encore sur les terres savoyardes, c'est pour ça qu'il y avait des aristocrates français qui venaient se réfugier ici où ils étaient tranquilles, en tout cas pour quelques années. Et effectivement, 1865, ça faisait seulement 5 années que la Savoie était annexée à la France. Donc là, ça a facilité aussi toute cette transition à la fois thermale et puis touristique, comme je disais tout à l'heure, puisque construction des grands hôtels, construction de thermes, construction d'une buvette, puisqu'à Évian, comme dans d'autres villes, c'est vraiment le passage à la buvette qui est important. Donc déjà, on boit l'eau, on commence par purifier l'organisme. Et ensuite, on passe à la deuxième partie sympathique, qui est de passer au terme. Donc pour les bains, les massages, puis donc l'activité physique aussi recommandée. Donc ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les thermes sont toujours actifs aujourd'hui. Donc un bâtiment plus moderne a été construit en face du port par deux grands architectes français. Un qui est un peu plus connu, on va dire, au niveau national et international, c'est Jean Prouvé. Donc connu notamment pour ses murs rideaux, avec le verre, le fer, donc vraiment les architectures très épurées qui étaient très à la mode à partir des années 50-60. Et puis il s'est allié à un architecte local, donc l'architecte Novarina, Maurice Novarina, qui a fait beaucoup de constructions, puisque c'est il est local, il est savoyard, donc il a fait beaucoup de constructions à Évian, à Thonon-les-Bains, donc dans toute la région, l'église de Passy, qui est très connue, à Grenoble aussi, puisqu'il a réalisé tout un lot de constructions au moment où Grenoble était ville olympique. Donc voilà, à eux deux, ils ont fait vraiment une très jolie buvette qui est très moderne, mais très ouverte sur le paysage, pour remplacer l'ancienne buvette Cachat, qui est en ce moment en travaux. Voilà, on lui fait un joli lifting à cette belle buvette qui a plus de 100 ans, pour qu'elle retrouve sa beauté d'autrefois, parce qu'elle avait été construite en 1903 avec une magnifique coupelle en bois, des très beaux vitraux. Et malheureusement, c'est un bâtiment qui a mal vieilli, qui a pris l'eau notamment, qui a eu des infiltrations d'eau au niveau de son toit. Donc là, c'est un gros chantier avec des artisans spécialisés, supervisés par l'architecte des bâtiments de France, pour faire une restauration à l'identique et même une reconstruction des parties qui sont manquantes aujourd'hui. Donc on va avoir vraiment un magnifique chantier et on a hâte qu'elle retrouve justement ses beaux habits du siècle dernier. Donc ça, c'est un des grands projets évianais.
En tout cas, moi, quand je suis venu, je l'avais vu de l'extérieur et c'était assez impressionnant de voir de l'extérieur ce qu'il y avait à l'intérieur et c'était respecté. Oui. Tu parles de la source Cachat. Je me rappelle que quand j'avais été très gentiment accueilli par le président des Amis de la Villa du Châtelet et le centre culturel Lémani, qui m'avait dit qu'il y en avait 4. Et sur les 4, je crois qu'il n'y en a que 2 en fonctionnement, si je n'ai pas de bêtises. Ça a été toujours comme ça, c'est-à-dire que ça a toujours été une ville de thermalisme, une ville d'eau, une ville où il faisait bon vivre.
Oui, parce que, alors pour rebondir sur la question là pour les 4, 4 fontaines, parce qu'en fait on dit 4 sources, mais
4 fontaines.
L'eau des Viands, voilà, elle ressurgit à plusieurs endroits, mais par exemple dans la même rue, tu as 2 mêmes fontaines. Mais c'est vrai qu'on appelle source Cachat, source Cordelier. En fait, c'est la même eau. Donc, c'est la même source, c'est la même poche d'eau, en fait.
D'accord.
Voilà. Donc, si on voulait être correct, on devrait dire le Griffon Cachat et le Griffon Cordelier.
Alors, excuse-moi, je n'ai pas voulu dire le Griffon, parce que justement, c'est quoi la définition du mont Griffon ?
Le Griffon, c'est vraiment une résurgence d'eau.
D'accord.
Donc, c'est là où sort l'eau, en fait.
D'accord.
Okay. Donc, voilà. Alors c'est vrai que nous on dit source, mais moi j'aime pas trop cette dénomination de source parce D'accord. qu'une source c'est une poche d'eau, donc c'est une qualité d'eau aussi. Voilà. Donc l'eau des Viands en l'occurrence, elle ressort 2 fois dans la même rue, donc au nom dénommé Cachat du nom de son ancien propriétaire, comme j'ai raconté l'histoire, et puis quelques mètres plus loin Cordelier. Donc effectivement ces 4 noms c'était ça, c'était Cachat, Cordelier, source de Clermont. Et puis, donc c'était en fait les premières résurgences qui étaient au fur et à mesure embouteillées. En fait, avant qu'il y ait les premières usines d'embouteillage, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, chacun mettait en bouteille les résurgences qui étaient dans leur quartier. Et jusqu'à ce que ça s'officialise ou que ça se professionnalise avec la première usine d'embouteillage d'eau, pile en face de la source Cachat, justement. Et puis ensuite, il y a eu tout le développement à l'international qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire, c'était l'usine BSN, maintenant c'est l'usine Evian, c'est le groupe Danone, en fait, qui est derrière. Et effectivement, c'est devenu un très grand groupe mondial, agroalimentaire, puisque à Evian, il n'y a que l'eau. Et les brumisateurs qui sortent de l'usine Evian. Mais il faut savoir que c'est une production énorme, une mise en bouteille énorme, puisque en moyenne, alors c'est vrai que là, avec la fameuse Covid, les choses ont un petit peu changé, mais en moyenne par jour, il y a à peu près 7 millions de bouteilles qui sortent de l'usine. Donc ça, c'est une particularité, c'est que la source Cachat, ben, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas d'autre dans le monde. Donc, effectivement, l'usine, en tout cas pour l'eau des Viands, il ne peut pas y en avoir d'autres dans le monde. C'est forcément
À Evian. Pour avoir le label. Quand on
Exactement.
Vient,
voilà.
Quand on vient à Evian, moi j'ai eu l'impression à chaque fois de me retrouver comme si j'étais à Aix-les-Bains. C'est-à-dire avec deux. Moi j'adore de très beaux bâtiments, mais des bâtiments qui ont un certain style.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu comme Aix-les-Bains, effectivement, avec ses anciens palaces, etc.
Est-ce que, c'est aussi une ville d'eau, Aix-les-Bains ? C'est pour ça,
oui.
Non ? Ça s'explique par
là. Oui, oui. On a un petit peu la même histoire, donc comme quand tu vas à Vichy. Alors, c'est vrai que toutes les villes d'eau n'ont pas gardé cette architecture. C'est soit Art déco, soit Art nouveau, en général, quand on va dans les villes d'eau. Donc, chez nous, c'est Art nouveau. Mais comme Aix-les-Bains, effectivement, on a plein de points communs avec Aix-les-Bains parce qu'on est au bord d'un lac aussi, tout comme Aix-les-Bains au bord du lac du Bourget. On a cette même histoire de développement à la Belle Époque, de développement aussi touristique grâce au train, parce que Aix-les-Bains a un petit peu la même histoire avec Lyon. Nous, c'est plus avec Genève, le fait qu'on soit relié avec les fameux PLM, les trains Paris-Lyon. Méditerranée. Autre point commun, la clientèle aussi très aristocratique. Donc, Aix-les-Bains, ils avaient invité la reine Victoria. Nous, c'était le roi Édouard VII, qui n'est jamais venu, mais on lui avait préparé une belle suite royale dans l'hôtel qui, du coup, s'est appelé Hôtel Royal, qui existe toujours, premier palace français. Donc, hôtel 5 étoiles, qu'on a la chance, vraiment le privilège d'avoir encore... aujourd'hui à Evian. Et c'est vrai qu'Evian, oui, comme Aix-les-Bains, a un petit peu entretenu cet esprit Belle Époque avec des très belles restaurations de bâtiments. Donc, je parlais de la buvette Cachat qui est en cours. Il y a eu la restauration aussi des anciens thermes. Donc, aujourd'hui, Bah, les lumières, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure,
Ah bah il y
peut-être
a
un petit
intérêt, oui. Ah bah ça
peu plus,
quand même,
voilà,
oui.
approfondi. Aujourd'hui, c'est un bâtiment culturel, donc on a fait vraiment une métamorphose de l'utilité du bâtiment, mais par contre, vraiment une très belle restauration de l'extérieur, de la façade et du hall d'entrée qui est vraiment comme à l'époque. Donc, c'est vraiment la volonté d'entretenir, on va dire, cette atmosphère belle époque. On a gardé l'ancien hôtel du parc, là où ont été signés les fameux accords d'Évian, en partie dans cet ancien hôtel qui est devenu une belle résidence d'appartements. Et puis effectivement, les deux hôtels de luxe dont je parlais, donc l'hôtel Royal 5 étoiles de 1909, et puis l'hôtel Hermitage qui le surplombe, hein, qui est juste au-dessus, donc de 1907, qui lui est 4 étoiles. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pu garder ces deux hôtels emblématiques, ces deux hôtels historiques. D'Évian, juste à côté du funiculaire, qui a été construit pour eux, en fait, à la demande des hôteliers, justement, de luxe, pour fournir à leur clientèle de l'époque, un confort qui était formidable, c'est-à-dire de pouvoir partir au pied de leur hôtel en funiculaire, de pouvoir descendre tranquillement, à la buvette Cachat, se rafraîchir, écouter, la musique, puisqu'il y avait concert de musique tous les matins, puis descendre au terme, remonter pour le déjeuner, aller au golf, parce qu'on a un golf historique aussi depuis les années 1900, aller au lac, hein, faire un tour en voilier sur le lac. À l'époque, on pratiquait le tir au pigeon aussi. Enfin, bref, c'est vrai que par toutes les installations qu'on a su garder, je dirais, jusqu'à aujourd'hui à Évian, il y a à la fois ce côté très belle époque, et puis on y a ajouté toute la modernité d'aujourd'hui. Donc, on baigne vraiment entre esprit 1900 et puis tous les aménagements plus récents qu'on a pu faire pour quand même mettre la ville à la page. Donc, amener d'autres aménagements aussi qui sont plus demandés aujourd'hui.
D'accord. Pour info, pour tous les auditeurs, je ne veux pas dénoncer Evelyne, mais je tiens à vous signaler que je n'ai pas d'oiseaux autour de moi. Et ce n'est pas un montage quand vous entendez l'explication
Non, c'est
des
à côté de
oiseaux.
moi,
C'est
effectivement, quand on entend
simplement
les oiseaux.
ça à côté d'elle. Mais j'adore ça parce que ça veut dire qu'on est dans la nature, dans la verdure, et c'est merveilleux.
Ouais, c'est chouette.
Juste avant de parler, bah, évidemment, du point commun important, puisque si on dit Palais Lumière, Villa Lumière, c'est pas un hasard. Est-ce que tu peux juste rappeler les accords d'Évian?
Alors oui, les accords d'Évian, donc en mars 62, date importante par rapport à la guerre d'Algérie, bien sûr, hein. Donc c'était une signature qui était très importante au niveau diplomatique, au niveau politique. Et en fait, à cette époque-là, donc le maire de l'époque, c'était Camille Blanc. Et Camille Blanc, il s'est vraiment battu, mais dans le sens noble du terme, il a tout fait pour pouvoir accueillir la signature des accords d'Évian dans sa commune, puisqu'en fait, les organisateurs recherchaient un lieu neutre, puisque la délégation algérienne était logée juste en face, à Lausanne, dont on a parlé. Donc il fallait un et d'autres lieux, puisqu'il n'y a pas eu que Évian, il y a eu Lugrin aussi, le château des Alamans, juste à côté. Mais il fallait d'autres lieux neutres pour justement la signature de ces accords. Et donc c'est comme cela que Évian a proposé justement l'hôtel du parc, donc un des beaux hôtels de la commune, comme lieu de signature. Donc tout ça, c'était en cours, on va dire, d'organisation pour mars 62. Et donc une année avant, en mars 61, il y a eu un événement tragique à Évian. Il y a eu un attentat, donc un attentat par l'OAS, qui a été donc revendiqué, une bombe qui a été placée sur une des fenêtres de la mairie et donc qui a coûté la vie au maire Camille Blanc. Donc le but, bien sûr, c'était d'annuler ces accords d'Évian. Et on va dire que tout le personnel et puis tous les adjoints en place ont été bien sûr très marqués par cet attentat mortel qui a donc coûté la vie à Camille Blanc. Et ils se sont à leur tour mobilisés pour maintenir
D'accord.
la signature de ces accords d'Évian une année plus tard. Donc c'est vrai que pour nous, du coup, c'est forcément très emblématique au niveau historique, mais ça touche beaucoup plus à cœur, on va dire, les Évianais par rapport à cet événement tragique un an plus tôt.
D'accord. Et puis, il y a eu aussi le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Commission européenne. Ça, c'était en 2003.
Tout
Alors,
à fait.
c'était pas une finale de foot ou de rugby, c'était simplement. Alors, on s'est tous demandé. parce que bon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même l'esprit assez ouvert, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire un G8 là, dans un endroit aussi, j'allais dire, engoncé, aussi loin, à Évian. Et ça, c'était du 1er au 3 juin. Et c'était marrant que ça se déroule, comment dire, à Évian. On pourrait se poser la question, pourquoi les dirigeants de ces 7 pays démocratiques se sont réunis à Évian?
Alors, la proximité de Genève,
ouais.
On retrouve un petit peu ce côté neutre, hein, la fameuse neutralité suisse. Mmh. Donc, proximité de Genève, ville internationale, donc là où il y a le siège européen des Nations Unies, mmh. Proximité avec l'aéroport international, effectivement, de Genève. Et en fait, Évian, le fait qu'on soit au bord du lac, au pied des montagnes aussi, du coup, c'était assez facile à sécuriser comme, mmh. Comme endroit. Mais effectivement, quand on en reparle aux Évianais qui ont connu cet épisode-là, c'était voilà, les contrôles dans les rues sécurisées. Donc oui, c'était une folle organisation, mais comme l'Hôtel Royal. Donc ça se passait à l'Hôtel Royal, comme l'Hôtel Royal a son propre héliport. Donc en fait, les hélicoptères peuvent atterrir directement à l'Hôtel Royal. C'était du coup assez facile, voilà, pour sécuriser l'accès justement de tous ces grands hommes et femmes politiques à l'époque. Donc,
moi, je me rappelle ce qui m'avait été dit il y a 18 ans, parce que je suivais ça un tout petit peu. Il y a quelqu'un, un élu, qui m'avait dit « Oh, ben, le meilleur moyen pour un habitant, c'est qu'il déménage pendant une semaine. » Et j'avais trouvé ça assez extraordinaire. Le point commun avec Évian et Lyon, notre bonne ville de Lyon, mais surtout, on était obligé d'en parler, on n'a pas le choix, puisque Villeurbanne, ah, c'est reparti, je le replace encore. Villeurbanne va être capitale française de la culture en 2022, c'est tout. Le point commun, c'est simplement qu'à Lyon, on a eu ce qu'on appelle les usines Lumière. On a la Villa Lumière, on a l'Institut Lumière, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a aussi le Palais Lumière et on a aussi la Villa Lumière à Évian.
Et oui, parce que les frères Lumière, hein, donc Louis et Auguste, venaient beaucoup ici au bord du Léman. C'était une région qu'ils appréciaient énormément, avec leur papa Antoine. Et donc, ils avaient leur résidence principale, effectivement, chez vous à Lyon. Mmh. Ils avaient déjà une résidence secondaire à La Ciotat, dans le sud de la France.
Eh oui, c'est
qu'ils
pour ça.
Qu'ils avaient fait décorer par leurs artistes, hein, mmh. déjà. Mmh. Et effectivement, ils sont tombés amoureux d'Évian, de ces bords du lac, qui recherchaient déjà une villa depuis quelque temps. Et ils ont eu une opportunité avec une villa qui venait d'être construite, prête à décorer, comme on dirait maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait tout à faire en décoration extérieure et intérieure. Et ça, c'était vraiment l'idéal pour eux, puisque c'était des grands mécènes, hein, des grands amateurs d'art. Ils avaient leurs propres artistes qui travaillaient pour eux. Et donc, ils les ont fait venir à Évian pour décorer, pour personnaliser leur villa, effectivement. Et donc, on a aujourd'hui une magnifique maison, belle époque, avec tout le luxe, tout l'apparat, en fait, de ces folles années 1900, qui est ouvert au public, qui est accessible au public gratuitement, mmh. puisque maintenant, c'est l'hôtel de ville, en fait. Donc, l'idée, c'était d'occuper ce bâtiment, d'y mettre les bureaux de la ville, donc de l'hôtel de ville, mmh. et de garder intact tout l'espace bourgeois, donc qui était l'ancien espace de réception pour leurs amis, mais aussi pour les personnes qui leur étaient moins proches, donc avec les petits salons de réception, la salle à manger, le grand vestibule, hein, le grand hall d'entrée avec un magnifique escalier, qui est ensuite séparé de l'espace privé à l'étage. Donc, pour ceux qui viennent à Évian, il ne faut vraiment pas hésiter, en semaine uniquement, hein, du lundi au vendredi, à parcourir ces magnifiques pièces de l'espace bourgeois, où on retrouve les soieries lyonnaises, bien sûr, hein, ils ont mis en valeur aussi tout l'artisanat lyonnais. On a un bureau et puis un dessus de cheminée, ainsi qu'une console en onyx. Donc ça, c'était très rare de voir d'aussi grandes pièces décorées en onyx à cette époque-là. On a des boiseries dorées, on a surtout une installation électrique. Alors, ce qui est très rare, puisque pour remettre dans le contexte, eux, ils achètent cette villa en 1896. Et nous, dans ces années-là, sur Évian n'était pas encore totalement électrifié. Donc, ça veut dire qu'au sous-sol, ils avaient installé leur propre machine pour fabriquer leur propre électricité. Mmh. Donc c'est vrai que les frères Lumière, enfin la famille Lumière de manière générale, parce que le père Antoine Lumière, c'est lui qui avait lancé tout ça. C'est vrai que c'était à la fois des incroyables techniciens, donc de photographie par rapport aux plaques photographiques, puis par rapport au cinéma avec le cinématographe en 1895. Mais on pourrait dire aujourd'hui, c'était des hommes d'affaires finalement.
Des
Et ils étaient
industriels,
toujours,
des industriels,
oui. Et des industriels. Donc, c'est vrai qu'ils étaient toujours à la recherche de la pointe de la technologie et d'améliorer à chaque fois. Donc, là, on le voit, cette villa, c'est vraiment un bel exemple parce que, à la fois, c'est tout le chic, toute la beauté, belle époque. Ils venaient que quelques semaines par an, hein, parce que c'était une de leurs résidences secondaires, donc c'était pas la seule. Donc, pour quelques semaines par an, ils voulaient tout le confort moderne. Donc, il y avait le chauffage central, il y avait l'électricité partout dans la maison. Donc, faut bien imaginer que pour l'époque, c'était vraiment la curiosité, hein, voilà, la maison à voir à Évian, pour ceux qui voulaient venir avoir la chance de rencontrer les frères Lumière. Ça, c'était vraiment le grand honneur de pouvoir parcourir justement ces salons de réception et de voir toutes ces beautés esthétiques mais technologiques qu'ils avaient installées à l'intérieur.
Bon, moi, ça suffit là maintenant. Moi, il faut que tu me dises quand est-ce que je peux venir parce que là, quand est-ce que tu peux venir
Ben, quand tu veux.
Là, c'est bon, là. Non, attends, tu viens de me mettre. Tu me mets l'eau à la bouche et puis maintenant, comment je fais pour venir visiter?
Pour venir visiter, c'est facile, hein, voilà, on prend l'autoroute, on suit Évian-les-Bains.
C'est intelligent. La question était tellement bien posée que je me prends la réponse qui est tout à fait adaptée. Il y a pas de non, non.
On
Est-ce
vient
que
en train, on vient en bateau. Voilà, il y a plein de manières de venir chez nous.
Oui, on vient en bateau. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais qu'en Suisse, ils ont un mystère de la marine, ce qui est assez original.
Oui.
Mais c'est important quand même. C'est non, non.
Oui.
Est-ce qu'il y a déjà un programme de réjouissance pour les visites?
Alors, il y a tout un programme. Donc à Évian, moi, je travaille avec l'office de tourisme d'Évian et donc qui va mettre tout un programme, qui a déjà mis tout un programme en place. Donc on va avoir les visites de la ville, vraiment si vous voulez aller au fond de toutes les petites anecdotes et puis tous les petits secrets de la ville. Donc vraiment pour la visite historique qui va être un petit peu plus poussée. Donc ça c'est tous les mardis après-midi à 14h30. Je propose une visite qui est plus ludique aussi autour des cinq sens. Donc pour toucher à l'aveugle par exemple, sentir les plantes parce qu'on a des très beaux jardins à Évian qui datent aussi de la belle époque, voir, c'est-à-dire regarder autrement le paysage, écouter ces petits oiseaux que vous entendez en fond. Donc ça c'est les mercredis matins à 10h30.
Donc les petits oiseaux c'est mercredi matin, j'ai bien compris, c'est ça.
C'est ça, voilà. J'ai une visite costumée théâtralisée dont on a parlé la dernière fois, où Anna de Noailles fait visiter sa ville Belle Époque en costume 1900. Donc ça, la balade Belle Époque, c'est le lundi à 16h, donc pareil en juillet-août. Et puis une nouveauté de plus cette année, ça sera une visite du quartier des Matérons. En fait, le quartier des Matérons, c'est le quartier qui est sur les hauteurs d'Évian, au niveau justement de la gare haute du funiculaire, et où il y a un trésor de villas Belle Époque, donc, qui datent toutes des années 1900. Et donc ça, c'est un parcours qu'on a mis en place en partenariat avec Jean-Michel Henny, donc que tu as évoqué tout à l'heure, sans dire son nom, qui s'occupe de la Villa du Châtelet, donc qui fait revivre justement tout ce patrimoine Belle Époque. Et là, on a des très belles villas, ce qu'on appelle de style régionaliste. C'est-à-dire, dans les années 1900, chaque propriétaire qui se faisait construire une maison, la plupart du temps, c'était seulement des résidences secondaires, hein, c'était des maisons de vacances.
Ouais, je comprends, ouais.
Mais ce qui était assez drôle pour nous, avec notre œil d'aujourd'hui, c'est que chacun amener un petit peu soit le style de sa région d'origine, ça pouvait être un style normand, un style basque, un style chalet suisse. Et du coup, on retrouve des très belles villas avec vraiment une architecture très cossue, très raffinée, mais qui vont parcourir plein de régions différentes, françaises ou étrangères d'ailleurs. Donc ça sera un nouveau parcours que je vais proposer à deux dates différentes. Donc une date en juillet, le 21 juillet, ce sera à 4h30. Et une date en août, ce sera le 11 août, voilà, au même horaire. Donc,
Et alors moi je le dis parce qu'elle ne le dit pas, vous pouvez retrouver aussi hein, Evelyne sur j'allais dire son site internet, sa présentation sur EVAD, EVAD, guide. Ça c'est important à signaler. D'accord?
merci.
Il n'y a pas de quoi.
Oui.
Est-ce que je peux poser
Comme
une
je...
dernière question? Parce que je voulais quand même toujours faire un petit clin d'œil à l'association des guides conférenciers Auvergne-Rhône-Alpes, en partie les Grenats. Certains jouent le jeu et d'autres ben, prennent leur temps. Ça arrive petit à petit. Mais pour finir, la dernière question, elle est simple. Ghislain Ponce, il y a 48 heures, m'a fait un très beau sujet sur ses visites qu'il réalise, lui, sur le thème des petites histoires. Macabre, tu fais ce genre de choses?
Pas encore, non.
Ou sinon, tu as aussi Nicolas Le Breton à Lyon qui passe son temps à me faire les visites sur les grands criminels de Lyon. Voilà. Toi, c'est un peu à
Oui,
l'eau de
voilà.
rose, j'ai l'impression. C'est bien, c'est
Oui,
toujours.
moi je suis très positive, moi, tu sais, je suis très très idyllique, très voilà. Donc ça, je fais pas encore. Je sais que ça se fait sur Genève aussi. Il y a voilà des visites aussi comme ça. Alors après, il faut déjà qu'il y ait la matière, qu'il y ait eu assez d'affaires criminelles ou voilà pour donc à Genève il y a matière. Chez nous, non, tu sais, on est dans une petite ville tranquille, hein, donc il y a
Oui,
pas.
parce que par exemple, à un moment donné, Ghislain, si vous n'avez pas encore entendu, et 48 heures, quand même, expliquer comment est-ce qu'il faisait le supplice de la roue, quoi. Il prenait le marteau, et il tapait sur
C'est
les.
ça.
C'était très imagé. Bon, voilà, non, mais c'est tout. Bah, écoute, moi, je voulais te remercier. Et puis, bah, je
Merci
suis
Alain.
désolé, mais bon, tu as encore fait une gaffe, alors j'y peux rien. Vous savez que le principe, si on dirait en jeu, c'est qu'on ne coupe rien. Et là, je suis obligé d'assumer la gaffe que tu as faite. As-tu conscience de la gaffe que tu as faite?
Non, à part de parler des passages qui s'appellent les gaffes, mais
Non, 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 non. C'est toujours comme ça. Hein. Tu parlais tout à l'heure d'Émilie. Émilie, on pensait en faire un, on en est au quatrième. Toi, c'est le deuxième. Non, on va être au troisième. Puisque tu avais une gaffe concernant une ville qui est juste en face d'Évian.
Ah,
Donc,
Lausanne.
on va être obligé. J'ai pas le choix. Je suis obligé d'assumer vers tes propos. Et donc, on va être obligé de se retrouver dans 15 jours, 3 semaines pour parler de Lausanne.
Et ben avec plaisir, Alain.
Super. Merci à toi en tout cas. Puis à très très vite.
Et ben merci, Alain. À très vite, à très bientôt.